chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver enfin après 15 jours d'absence pour cette revue de presse du lundi 7 juin 2021. Je suis actuellement en direct sur YouTube, donc bienvenue à tous nos abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire maintenant. Voici les titres de l'actualité. Je vous parlerai d'abord de la mission Ismerie, donc fondée par Marc Fromager, ancien directeur de l'AUD. Mission Ismerie, c'est tout simplement accueillir les convertis venus de l'islam et donc annoncer le Christ aux musulmans. Je vous lirai donc l'article qu'a consacré le magazine L'Homme Nouveau, numéro 1737. Ensuite, nous allons continuer avec le silence. Une régénération physiologique, psychologique et spirituelle. Je vous lirai les conseils d'Hélène Monet, conseils qu'elle a donnés à l'Invisible numéro 126. Alors rassurez-vous, je ne serai pas en silence pour autant, mais vous allez voir les trésors que révèle le silence. Culture chrétienne, nous allons avoir le 30 juin à 14h35, Alexandre Goudarzi, chargé de projet de développement auprès des SOS Chrétiens d'Orient. Et Alexandre Goudarzi, figurez-vous, fait partie des otages enlevés en janvier 2020. Il a écrit un livre, Guerrier de la paix. Je vous lirai quelques extraits, mais notez son rendez-vous en direct sur Radio Maria France le 30 juin à 14h35. Nous commençons cette revue de presse du lundi 7 juin 2021 avec la mission Ismerie. Une mission pour la conversion des musulmans. Voici donc l'article de L'Homme Nouveau numéro 1737. Mission Ismerie est née d'un constat. De plus en plus de musulmans découvrent le Christ et embrassent la religion catholique. C'est évidemment une très bonne nouvelle. Si nous sommes chrétiens, chaque jour et chaque nouveau fidèle ne peut que nous réjouir et ce mouvement de conversion de l'islam au Christ que nous observons à travers le monde, constitue, objectivement, un motif de joie et d'action de grâce. Face à ce constat, qui est également, selon nous, un signe des temps, Mission Ismerie souhaite apporter sa modeste contribution en accompagnant et facilitant l'accueil de ces nouveaux chrétiens issus de l'islam au sein de l'Église. Notre objectif est donc avant tout de répondre à une situation existante, mais aussi participer activement à ce mouvement de fond en développant l'annonce explicite de l'Évangile auprès des musulmans. On pourrait se demander pourquoi nous nous concentrons sur les musulmans. Tout d'abord, dans l'Église, il y a toujours eu de nombreux charismes et priorités pastorales. Et il nous semble que cet apostolat spécifique est déjà très important en soi. Ensuite, nous voulons entendre l'invitation du pape François à rejoindre les périphéries. Pour nous, les musulmans ont également le droit d'entendre parler du Christ. Et il s'avère qu'ils sont de plus en plus nombreux à le vouloir. Enfin, les musulmans sont souvent les seuls à encore s'intéresser aux questions métaphysiques et notamment à celles du salut. Lors des évangélisations de rue, il n'y a guère plus qu'eux à bien vouloir écouter l'annonce du Christ. Cet aspect rejoint le constat que j'avais fait comme directeur de l'aide à l'Église en détresse, nous dit Marc Fromager, lors de nombreux déplacements faits dans les pays à majorité musulmane. En réalité, l'islam traverse une crise profonde. Et outre les nombreuses dissensions dont il est l'objet, on pourrait catégoriser le monde musulman en trois groupes principaux. Un premier groupe, minoritaire mais qui se développe, se radicalise et prône la sécession, voire la conquête. Un second groupe, sans doute le plus important, se sécularise, voire devient athée, y compris dans les théocraties du Moyen-Orient. Des populations jeunes supportent de moins en moins la pression étouffante des ayatollahs et autres garants de l'ordre islamique. Enfin, un troisième groupe cherche une nouvelle réponse religieuse ou se laisse toucher, souvent mystérieusement, notamment par les songes, par le Christ ou la Vierge Marie. Je pense notamment à cette Iranienne que j'ai rencontrée, convertie à la suite d'un songe. Elle s'est vue dans la position de la croix et en a ressenti un immense bonheur. Elle a ensuite cherché à en savoir plus sur le Christ et a finalement réussi à être baptisée malgré les risques encourus. Oui, Dieu lui-même est à la manœuvre. L'Esprit Saint agit puissamment dans ces pays où des musulmans découvrent le Christ à travers des expériences spirituelles, souvent sans aucune médiation humaine. Et cela se produit également chez nous. Savez-vous que déjà près de 10% des baptêmes d'adultes dans l'Église catholique en France concernent des musulmans convertis? Moi, je ne le savais pas, figurez-vous. Certes, des initiatives pour accompagner ce mouvement de conversion existaient déjà, mais elles demeuraient presque confidentielles. Il fallait opérer un changement d'échelle et c'est pourquoi Mission Ismeri a été fondée. La présence de musulmans est un défi politique majeur, mais elle représente surtout pour nous, chrétiens appelés à témoigner de notre foi, un formidable défi missionnaire. Comme chrétiens, nous avons la responsabilité historique d'accompagner ce mouvement de conversion pour le bien de ces personnes qui découvrent la joie du salut apportée par le Christ ressuscité, pour le bien de l'Église, car les convertis sont toujours une grâce de réveil de la foi, et enfin pour le bien de la France, pour faire grandir l'amour de notre pays, sa cohésion, son unité, sa paix. Un effort important et nécessaire et urgent, surtout quand on veut se déraciner de nos racines chrétiennes. Il est frappant de constater en France, chez les musulmans convertis, que leur attachement au Christ s'accompagne d'un attachement à notre pays. En devenant chrétiens, c'est comme s'ils développaient en même temps un lien charnel avec cette terre. Fondée début 2020, Mission Ismeri regroupe différents acteurs ainsi que des initiatives qui ont déjà fait leurs preuves. Les forums Jésus le Messie, tout simplement, Mission Angélus, avec Annie Laurent notamment aussi. Après son lancement, sa présentation au grand public l'été dernier et son décollage, Mission Ismeri poursuit sur sa lancée un nouveau site internet tourné vers la mission. La création d'une ligne d'écoute dédiée aux convertis. Multiplication des forums Jésus le Messie et du nombre de formations à la mission données par Mission Angélus en ligne et sur le terrain. Lancement par Mehdi Djahadi du premier grand pèlerinage des convertis qui se tiendra les 5 et 6 juin et qui s'est tenu, plutôt, à Notre-Dame de Liesse dans l'Aisne. Est-ce que vous en avez entendu parler? Peut-être pas forcément. En partenariat, bien sûr, avec l'European Center for Law and Justice pour la publication d'un rapport sur la persécution des chrétiens ex-musulmans en France. Vous voyez, les initiatives, les événements ne manquent pas. Notons aussi l'ouverture et l'animation d'un accueil Saint-Joseph à la paroisse Saint-Joseph Artisan à Paris, offrant une permanence d'écoute, de dialogue et d'amitié avec les musulmans se posant des questions sur le Christ. En 6 mois, une 15aine de personnes cheminent déjà vers le baptême. D'autres lieux sont en préparation. Avec une 10aine de lieux, nous pourrions envisager plus de 300 baptêmes par an. Beaucoup a déjà été fait. Mais ce n'est qu'un début. Comme la princesse Ismeri, donc qui était une princesse égyptienne musulmane du XIIe siècle, de nombreux musulmans se convertissent aujourd'hui. Soyons acteurs de cette opportunité historique. Et sachez d'ailleurs qu'à la rentrée, les deuxièmes mercredis du mois à 14h35, vous aurez Marc Fromager et le témoignage d'un ancien musulman. C'était l'article de Marc Fromager paru dans L'Homme Nouveau, numéro 1737. Nous allons maintenant nous tourner, et peut-être nous mettre, enfin du moins vous, en silence. On va se tourner vers le silence, un chemin vers une joie profonde, associée à une régénération aussi bien physiologique que psychologique, et sans oublier bien sûr le spirituel. Je vous donne les conseils d'Hélène Monet, qui elle aussi a également écrit un livre, Les saveurs du silence, paru aux éditions Jouvence. Conseils qu'elle a donné dans L'Invisible, numéro 126. Le bruit de fond incessant de l'hypermodernité rend le silence à la fois attirant et effrayant. Fuirait-on ce dont on a le plus besoin ? Phoniatres et psychiatres s'accordent à dire que le bruit est une source de perturbations physiologiques et mentales notoires. Le silence et le calme sont absolument indispensables à notre santé psychocorporelle. Les urbains savent malheureusement combien les nuisances sonores affectent la qualité du sommeil. Agressés par la cacophonie ambiante, beaucoup aspirent au silence. Toutefois, cet échappatoire au bruit n'est pas toujours une sinécure. Le silence exacerbe en effet le bavardage mental, amplifie mal-être et tension, peut révéler un vide intérieur. Savourer le silence nécessite un peu d'entraînement. Car le silence est bien loin de n'être que l'absence de bruit. Cet espace intime est très vaste en réalité. Il permet la rêverie, la réflexion, la contemplation, la créativité, la prière. À l'instar d'une ample respiration, il dégage l'esprit et prépare celui-ci à se rendre au bout de lui-même. Écouter sa vibration mène toujours quelque part. Le silence constitue une porte ouverte sur le travail de croissance intérieure que tout un chacun mérite de s'offrir. L'aspiration au silence est en outre variable d'un individu à l'autre puisqu'elle touche à la relation intime de soi à soi. Et il est vrai qu'on n'a pas tous la même relation avec nous-mêmes. Les introvertis le goûteront plus spontanément que les extravertis. Forcément. Car à la différence de l'extraverti qui a besoin souvent, impérieusement, d'un élément extérieur, activité ou échange avec autrui, pour se ressourcer lorsqu'il a épuisé ses batteries, l'introverti a lui tendance à se recentrer automatiquement sur lui-même pour y puiser un regain de tonus. Il n'en a d'ailleurs aucun mérite particulier puisque son intégrité et sa vivacité psychique sont à ce prix. On peut toutefois très bien ne pas être introverti et prendre le parti du silence. Celui qui a dès l'enfance aura appris, on va dire, à s'ennuyer, c'est-à-dire à faire d'une absence d'activité un moment de ressourcement intérieur en pratiquant par exemple l'observation, voire la contemplation, saura apprécier le goût du silence et saura y demeurer tranquille. Il n'y verra aucune rupture ni aucun danger. Dans l'adversité, certains individus privilégieront le silence, non pas comme un repli, mais comme une loyauté sans faille envers la meilleure part de soi qu'ils tiennent à préserver. On n'y pense pas toujours à ça. Face aux épreuves de la vie, bavardage et commentaires semblent souvent dérisoires. Et surtout, beaucoup de perte de temps et un gaspillage énorme d'énergie. L'individu a plus que jamais besoin de s'appuyer sur ce qui constitue son essentiel, au-delà de ce qui est aléatoire. Sa vocation d'être dans un dialogue intérieur avec les différentes parts de lui-même. En société, le silence est un allié pour réguler l'usage de la parole. Savoir se taire quand il faut exige un doigté et une intelligence de situation, un ajustement comportemental. Le silence implique une acuité de regard. De soi à soi, notamment après le choc d'une rencontre amoureuse, il peut être fort judicieux de s'accorder un temps de silence pour laisser décanter les ressentis, refaire le film de la rencontre, en écouter les harmonies psychiques. Ce retrait dans un temps d'intensité émotionnelle peut s'avérer un précieux moment d'analyse. D'une manière plus générale, jouir pleinement du silence constitue une vraie respiration. C'est un repos indispensable à notre essence humaine, pour le corps, le mental, le cœur, l'âme. L'individu ne peut continuer à perdre haleine, et donc à souffrir, en courant sans cesse après la performance professionnelle et le consumérisme tout azimut. Il lui faut s'accorder régulièrement des pauses de retrait que lui offre le silence. Ça nous permettrait vraiment de vivre plus longtemps. Je vous donne donc 5 clés pour passer en mode silencieux. Ce serait un peu dommage que ce soit réservé qu'au téléphone. La première clé, se taire pour goûter une joie. Être à l'écoute, attentif de ses sensations, apporte toujours de la joie au cœur. Pour goûter pleinement un plaisir sensoriel, le silence est indispensable. Profitez d'un environnement naturel, si possible, pour savourer pleinement l'inattendu qui vous est offert. Regardez le jeu du soleil dans un feuillage, toucher un pétale de fleur, ressentir la caresse d'une brise sur votre visage, la chaleur du soleil dans votre dos, écouter le bruit d'une averse, vibrer avec la trille d'un oiseau, ce que vous avez à portée de main, mais en lien avec la nature. Deuxième clé, manger en silence. À table, le silence permet d'abord une mastification gustative. Ensuite, il peut s'allier à une vraie gratitude pour la nourriture, ses arômes, ses saveurs. La chance de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Le soin mis à produire ces aliments. Enfin, la trace laissée au palais peut se graver dans la mémoire associée à l'éclat de la journée ou au sourire d'un hôte. Par exemple, prendre le café avec un ami. Troisième clé. Couper le téléphone portable au moins 30 minutes dans la journée. Allez, on s'y met maintenant. Rompez totalement avec le monde extérieur pour vivre authentiquement et intensément la ressource cachée du silence. Vous accomplissez ainsi un choix essentiel, celui d'être à l'écoute sincère et unique de vous-même. Quatrième clé, savourez le silence en couple. Pas d'intimité entre deux êtres sans la présence du silence qui rend aux mots leur valeur véritable. Offrez-vous moments et ambiances propices pour déguster ensemble un partage silencieux. Le silence amorce ou renforce la profondeur du lien. Le silence est le lieu exquis du sentiment ineffable. Le silence a alors les yeux pour complice. La respiration qu'on peut synchroniser peut aussi aider à s'installer dans un silence profond et partagé. Et enfin, dernière clé, savoir faire retraite. Prendre du champ pour faire silence a prouvé son efficacité. Le silence est propice aux transitions. Il est le lieu privilégié de la mise en perspective, de la prise de conscience, du lâcher-prise et souvent de la décision juste. Voilà, je vous ai lu à l'instant les conseils d'Hélène Monnet parus dans L'Invisible numéro 126 à propos de l'or qu'est le silence. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous parler du livre d'Alexandre Goudarzy intitulé « Guerrier de la paix », livre paru aux éditions du Rocher. Donc Alexandre Goudarzy, vous êtes sans doute au courant, est chargé de développement auprès de SOS Chrétien d'Orient et il a été enlevé avec d'autres collaborateurs en janvier 2020 à Bagdad par la milice chiite. Je vais vous lire quelques extraits de l'ouvrage, puisqu'il aura l'occasion de vous en parler de vive voix le 30 juin à 14h35. Nous sommes dans le premier chapitre du livre, donc intitulé « Kidnappé ». Des bandes sur la tête nous font comprendre que nous ne sommes pas autorisés à observer le trajet emprunté, tandis que des principaux commencent à nous fouiller les poches pour en extraire le téléphone et les papiers. Je me sens comme violée. Mobile, GPS, ça ne s'arrête pas. Les mains arrivent de devant, de ma gauche, de ma droite, elles prennent tout ce qu'elles peuvent. Je redeviens sourd. Je prends conscience que notre enlèvement est en cours, que mes ravisseurs sont en train de me demander de leur remettre tout ce qui va les aider à m'ôter tout espoir d'être retrouvés. Mon visage se crispe. Je voudrais crier, mais rien ne sort. Les mains semblent avoir une vie autonome. Seigneur, sauve-moi. Tout se bouscule dans ma tête. Des milliers de questions me taraudent. Qui sont-ils? Travaillent-ils pour le gouvernement? Sont-ils sunnites ou chiites? S'ils sont chiites, appartiennent-ils au gouvernement ou bien sont-ils de ces milices incontrôlables qui n'agissent que pour leur compte? Sont-ils connectés à l'Iran voisin qui les envoie? Je prie pour qu'ils ne soient pas sunnites. Jusqu'ici, je ne les entends pas crier frénétiquement à la Akbar et je n'entends rien de religieux. Leurs motifs sont sûrement politico-crapuleux. Je doute que ce soit idéologique ou religieux. Je ne comprends rien quand ils mourront sans leurs questions. Mes yeux sont obstrués par la cagoule que mon voisin de droite a mise sur le sommet de ma tête. Mes yeux sont recouverts mais pas ma bouche. Dans un anglais approximatif, il demande pourquoi je suis là. Je réponds que nous étions en train de nous rendre à l'évêché arménien catholique pour rencontrer l'administrateur Joseph Zabara. La cagoule qui me recouvre la tête me permet de voir et d'apercevoir ce que je peux voir dans la voiture. Le conducteur du véhicule endommagé a compris à qui il avait affaire. Je distingue à travers les mailles de l'expression de son visage. Il n'a pas d'intérêt à réclamer un constat. Les deux voitures ont repris leur course et sortent peu à peu de la capitale. Toujours mes passeports à la main, mon voisin en riant me dit « Outi ante outi » comme si j'avais une tête de yéménite. Même si je dois me concentrer pour obtenir cette réponse, je reste lucide. Il y a peu de chances pour que des islamistes proches de l'État islamique opèrent en plein cœur de Bagdad. Mes mains sont posées sur mes jambes. Subitement, celle de mon voisin de droite se plaque dessus comme pour empêcher de se sauver. Il ouvre ma main gauche, la saisit ferme et retire mon alliance pour l'enfiler délicatement sur son annulaire. Cela confirme ce que je pensais. Des chiites. Nous avons peut-être une chance de survivre, mais je veux en être sûr. Car s'il s'agit de chiites autonomes, ne répondant ni à l'État irakien, ni à l'État iranien voisin, alors rien ne les empêche de nous vendre à Daesh. Leur méthode semble crapuleuse et je ne crois pas à des gars du gouvernement. Je ne pense plus qu'à ça. Je n'ai pas très envie de mourir, du moins pas aujourd'hui. Où allons-nous? Quelle est la prochaine étape? Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, je gère la chute. Jusqu'ici, je respire, je m'économise, je concentre mes forces, j'entends la pacte. Et vous, chers auditeurs, vous aurez plus qu'à attendre le 30 juin à 14h35 pour avoir la suite avec Alexandre Goudarzi en direct. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne les titres d'actualité de cette revue de presse du 7 juin 2021. J'ai commencé par la mission Ismeri, fondée par Marc Fromager, ancien directeur de l'AED. Mission Ismeri, donc, est une mission d'évangélisation pour annoncer le Christ aux musulmans et surtout propager le témoignage des musulmans convertis. Vous les aurez le deuxième mardi à 14h35 à partir de septembre. Je vous ai ensuite donné les conseils d'Hélène Monet, conseils qu'elle a donné à l'Invisible numéro 126 sur le silence. Un silence d'or pour le physique, le psychique et le spirituel. Elle est également auteure des Saveurs du silence, paru aux éditions Jouvence. Et en culture chrétienne, je viens de vous parler à l'instant du livre Guerrier de la paix. Je vous ai lu quelques extraits du premier chapitre Kidnappé, donc du livre d'Alexandre Goudarzi qui avait été donc enlevé par la milice chiite en janvier 2020 et qui sera notre invité le 30 juin à 14h35. Très bon après-midi, écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie lundi prochain.